Ce soir, nous allons parler d'une autre chose qui est aussi importante et qui, quelque part, touche d'une certaine manière au discernement. C'est la question de la confiance en soi. Grandir dans la confiance en soi, quel moyen humain et divin? Et vu le nombre que vous êtes, je crois que c'est un sujet qui doit vous intéresser. Alors, on va voir les choses en trois parties. La première partie, c'est les causes des manques de confiance en soi. La deuxième, pourquoi la confiance en soi est importante. Et la troisième, les remèdes au manque. Voilà, les trois parties, je vous énoncerai les points. Avec moi, c'est toujours... Et puis, donc, c'est enregistré. Ce sera sur le site de SPNSP, en lien avec le site de la communauté. Et puis, je mettrai aussi le papier, parfois je le photocopie, je n'ai pas eu le temps de le photocopier, pour poursuivre, mais bon, c'est quand même très facile à suivre, et point par point, je ne pense pas que vous soyez perdu. Premièrement, quelles sont les causes du manque de confiance en soi, de manque de sécurité en soi-même? Premièrement, je pense qu'il peut y avoir une éducation dévalorisante. Et c'est vrai qu'une éducation dévalorisante qui peut ou non s'accompagner d'un certain perfectionnisme. Vous voyez, et je pense peut-être parmi vos familles, ou parmi, voilà, c'est quelque chose où, en même temps, le perfectionnisme n'est pas que mauvais, parce qu'il tire vers le haut, mais parfois, pour certaines personnes, eh bien, il peut les décourager. Ou alors, carrément, une éducation dévalorisante. L'autre, il y en a certains, quand je rencontre des jeunes, mais moi, mes parents m'ont toujours dit, t'es nul, tu n'es pas à la hauteur, t'es pas ceci, t'es pas cela, etc. Donc, voilà, c'est une des conséquences du manque de confiance, ou des causes, plus exactement, du manque de confiance en soi. Une autre cause, c'est se comparer, la jalousie. Vivre sous le regard de l'autre. Alors ça, vraiment, il faut demander au Seigneur, et puis on va voir les aspects à la fois humains et divins comme remède, et je pense que c'est aussi, on va tenir, essayer les deux, l'aspect plus psychologique et l'aspect plus spirituel, mais nous sommes ce que nous sommes sous le regard de Dieu. On n'est pas ce que l'on est sous le regard des autres. Je dis ça parce qu'on est beaucoup dans une démarche dans nos sociétés de comparaison, d'apparence, de figuration, etc., etc., et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et ça crée au contraire un déséquilibre en soi-même qui fait qu'on est toujours un peu en mode de vivre en procuration, par procuration, et sous le regard de l'autre, et puis avec la jalousie qui va avec. La jalousie est un des signes qu'on n'a pas assez confiance dans les dons que le Seigneur nous a faits. Je pense que c'est un des signes, parce que la jalousie, ça vient de ça. Entre autres, c'est ne pas assez vivre et prendre conscience de ce qu'on en a reçu. Donc, un autre point qui est aussi intéressant, c'est le manque de connaissance de soi-même, et singulièrement le manque de connaissance de ses émotions. Le dernier topo que j'ai fait en juin, parce que SPNSP, j'interviens une fois sur deux, un mois sur deux, il y a des topos, des conférences chaque mois, et entre deux, il y a d'autres intervenants qui interviennent. Et donc, au mois de juin, j'avais parlé, je pense que vous retrouvez sur le site aussi, de comment gérer ses émotions. Parce que la connaissance de soi et la connaissance singulièrement de ses émotions aide à la prise de confiance. Par exemple, il y a des personnes, et vous avez peut-être, c'est peut-être dans ce cas-là, des personnes qui sont tout à fait douées intellectuellement, mais dont les émotions, on voit ça chez des enfants, dont les émotions sont tellement prégnantes et singulièrement la peur, qu'au moment de l'examen, ils n'arrivent pas à aligner deux mots. Mais parce que c'est un manque de confiance en eux, parce qu'ils ne prennent pas conscience de que l'émotion est trop prégnante et que quelque part, il y a une certaine distance, on verra dans les remèdes à avoir, une certaine distance à avoir par rapport aux émotions. Les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont, on peut avoir de la peur, on peut avoir de l'enthousiasme, on peut avoir de la joie, on peut avoir, je vous renvoie au topo de juin, mais ces émotions-là, ce n'est pas elles de gouverner. Et quelqu'un qui est trop sous le mode émotif, et notre société est très émotionnelle aussi, notre société est très, très sous les sentiments, sur le ressenti, il faut que je le sente, si je ne le sens pas, etc. Alors que ce n'est pas ça qui fait vraiment la détermination d'un choix de vie, par exemple. Dans mon ministère, en dehors de donner des topos à SPSP, je m'occupe beaucoup de préparation au mariage. Et je ne cesse de dire à l'envi jusqu'à lasser qu'une chose, c'est aimer, autre chose, c'est le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux n'est pas toujours présent. Mais ce n'est pas parce que le sentiment amoureux n'est pas présent que l'amour n'est pas présent. De même dans notre relation à Dieu, ce n'est pas parce que je ne ressens rien quand je prie et que, voilà, parce qu'à un certain moment, voilà, si vous avez, par exemple, fait une... Vous êtes dans des groupes de prière charismatiques qui sont très sous le mode, justement, affectif, sentimentaliste, etc. Alors, on suscite beaucoup l'émotion. Mais la vie de foi n'est pas une vie basée sur l'émotion. La vie de foi, c'est une vie qui est basée sur la certitude que la parole de Dieu, c'est vrai, et que la parole de Dieu, c'est vrai, et puis que la décision de croire aussi, de croire et de faire confiance. Et donc, je pense que c'est important d'être assez attentif à ça. Quelle est la place des émotions dans notre vie? Est-ce que je prends déjà conscience des émotions qui sont en moi? Angoisse, quand j'ai un nœud à l'estomac, etc. Angoisse, anxiété, angoisse, peur, joie, etc. Et est-ce que c'est ça qui domine ou comment essayer de prendre, on verra après, pour réduire? Mais c'est vrai que c'est une source de manque de confiance en soi que de vivre trop sous l'émotion. Autre point. Le manque de délibération dans la prise des décisions. Alors, ça, je vous renvoie à un autre topo, c'est la prise de décision. Je ne me rappelle plus quand je l'ai donné. La délibération fait partie d'une des trois étapes pour la prise de décision. Il y a trois étapes, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Alors, trois étapes, premièrement, donc, c'est le conseil. Quand vous voulez prendre une décision un peu importante, c'est sûr que si vous allez acheter un pain au chocolat ou un pain au raisin, vous n'allez pas demander, mettre en place tout un truc complètement démesuré, prendre conseil. Alors là, ça, c'est pathologique, là, je suis plus compétent. Donc, la trois étapes de la prise de décision. Premièrement, le conseil, une décision un peu engageante, comme par exemple, évidemment, par rapport à un choix de vie, que ce soit la vie consacrée, la vie du mariage, un choix professionnel, un choix dans le bénévolat, etc., etc., quelque chose qui vous implique un minimum. Le conseil, demandez conseil. Bon. La deuxième étape, c'est la délibération. Parce que si vous avez demandé conseil, ce n'est pas le conseiller qui va prendre la décision, c'est vous qui allez la prendre. Donc la délibération, c'est se dire à soi-même pourquoi je prends telle décision. Et bien souvent, c'est ce qui manque. Et la troisième étape, c'est le passage à l'acte. Et bien souvent, c'est ce qui manque. C'est des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas assez, et quelque part, ça fait partie de... qui n'ont pas, je veux dire, assez de vie intérieure, parce que je trouve que la délibération, ça fait partie aussi de notre intériorité, et derrière ça aussi de vie de prière, passer de dimensions contemplatives dans leur vie, et de temps de silence, de se poser, etc. Du coup, ça s'accumule, etc., mais ils n'ont pas réfléchi assez pourquoi ils veulent prendre la décision et ce vers quoi ils veulent s'engager. Et ce qui fait que, ce qui est très important, dans un entretien d'embauche, ça se sent tout de suite quand la personne... connaît l'entreprise dans laquelle elle postule, s'est renseignée un minimum sur les activités. Si vous dites, ben non, mais pourquoi vous postulez? Ben écoutez, j'ai vu de la lumière, là, je suis passé, puis bon, voilà, puis finalement, voilà, je suis là, mais c'est sûr que, voilà, pourquoi vous postulez? Ben vous payez mieux que les autres, même si c'est vrai, c'est pas comme ça, c'est toute la stratégie d'entretien d'embauche. Et du coup, c'est ça, c'est de connaître, de savoir pourquoi. Et ça, c'est un travail intérieur, ce qu'on appelle la délibération. J'en profite pour aussi dire qui peut être une source de manque de confiance en soi. C'est la délibération, donc les trois étapes de la prise de décision, c'est les trois étapes de la vertu de prudence. Vous avez peut-être déjà entendu les vertus cardinales comme les quatre points cardinaux. Donc la vertu de prudence, donc la tempérance, la force, la justice, la prudence. Donc ça, c'est les trois étapes de la vertu de prudence. Mais il en va aussi qu'on peut manquer de confiance en soi ou notre prise de décision qui est propre à la prudence peut être, d'une certaine manière, être fragilisée parce que dans les autres vertus, que ce soit la force, c'est-à-dire le courage, ou que ce soit la tempérance, c'est-à-dire de savoir mettre un frein à tout ce qui est le plaisir sensible en nous, ou la justice, le rapport aux autres, dans les autres vertus, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui, par exemple, une addiction à l'alcool, on va prendre un exemple, donc c'est un manque de tempérance, peut être tout à fait injuste, par exemple, en mentant. Ça, c'est très souvent, les personnes alcooliques mentent. Hein, donc, et du coup, ils mentent, ils disent pas, voilà, déjà, ils se reconnaissent pas être alcooliques, c'est un déni, ils sont dans le déni d'eux-mêmes. Donc, c'est le mensonge, c'est un manque de justice. C'est par rapport à l'autre, l'autre est en droit, l'intelligence de l'autre est en droit de connaître la vérité, et donc, si je mens, je suis injuste avec l'autre. Hein. Et puis, ça peut aussi entraîner un manque de courage, une sorte de lâcheté. Et puis, ça peut entraîner des prises de décision qu'après, je regrette. Hein, c'est typique de l'alcool, surtout quand c'est poussé un peu loin. Ben voilà, on a plus de... On regrette les actes qu'on a pu poser parce qu'on n'en a pas été vraiment conscient. Quoi. Donc, juste faites bien le lien entre... On est une unité. Hein, âme et corps, on est une unité. À la fois esprit et matière, on est vraiment une unité. Et ce que je vis dans une partie de ma vie retentit forcément dans les autres parties de ma vie. Donc s'il y a une forme de déséquilibre, de trop ou de pas assez, ça peut être le trop ou le pas assez, quelqu'un qui ne prend pas assez soin de son corps, pas assez soin au niveau de la nourriture, etc., ben, quelque part, son esprit aussi va en être affecté, parce que dans la valorisation de soi-même passe la valorisation du corps. Hein, donc, voilà, donc je pense que c'est intéressant de voir ça dans la globalité, dans l'unité. Autre point. Le manque, un des manques, une des sources des manques de confiance, c'est le manque d'humilité. Alors on peut dire, mais est-ce que vous êtes un peu contradictoire? Et c'est là parfois qu'il faut vraiment corriger notre manière de voir les choses. On confond le manque de confiance et l'humilité. Ben, on croit que l'humilité, c'est excusez-moi de vous demander pardon, voilà, je suis nul, etc., etc. C'est pas l'humilité, dit la grande Thérèse d'Avila qu'on va fêter demain, si je ne me trompe. L'humilité, c'est la vérité. La vérité, ben, quand on regarde la Vierge Marie, par exemple, ben, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Toutes les générations me diront bienheureuse, ben, celle-là. À moins, question cheville, elle a ce qu'il faut, quoi. Donc, mais en fait, en même temps, elle reçoit ça, et je trouve que la Vierge Marie est un bel exemple, à la fois d'accueil de la volonté de Dieu et à la fois de se mettre dans une attitude d'humilité, c'est de reconnaître les dons de Dieu comme ne vont pas de moi. Mais l'humilité, ce n'est pas la dépréciation de soi-même. Donc, un manque d'humilité, par exemple, je parlais du perfectionnisme, en se mettant la barre trop, parce que peut-être vous avez été éduqué comme ça, et que vous voyez que vous n'y arrivez pas, ben, forcément, il va y avoir une perte de confiance en vous. Parce que vous allez voir le décalage entre ce à quoi vous vous êtes fixé et ce que vous êtes en droit, capable de... Ben, l'humilité, c'est dire, qu'est-ce que je suis juste capable de faire? Et en disant ce que je suis capable de faire, c'est aussi reconnaître, on le verra après, ses limites. Mais quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un qui, les gens qui font comme ça très sûrs d'eux, méfiez-vous-en, parce qu'à mon avis, c'est des gens qui n'ont aucune confiance en eux. Il y a rien, les gens comme ça qui sont très péremptoires, vous voyez, qui sont comme ça un peu, comme, vous voyez, on sent, voilà, oula, on se dit, mais... À 80%, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Justement, s'ils sont obligés de mettre en place un certain nombre de comportements extérieurs pour prouver qu'ils ont confiance en eux, c'est signe qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, je crois que la confiance en soi, c'est pas l'orgueil. L'orgueil, non, c'est un mensonge, l'orgueil. C'est dire quelque chose qu'on est alors qu'on ne l'est pas. Confiance en soi, c'est juste la vraie mesure de ce que nous sommes. Et donc, c'est la vraie mesure de ce que nous sommes, c'est l'humilité. Autre point, insuffisance de la présence paternelle. J'ai donné un topo, je ne me souviens plus, à Spiespi, sur en quoi la relation avec mon père influe-t-elle encore mes décisions. Peut-être certains ont participé à ce topo. Insuffisance de la relation paternelle, de l'influence paternelle. L'insuffisance de la présence paternelle. Parce que le rôle du père, entre autres, c'est d'encourager. Le père met aussi au monde, je vous renvoie à ce topo-là, je ne me rappelle plus, je pense que c'est l'année dernière ou je ne sais pas quand, mais le père, c'est celui qui aussi met au monde. La maman, elle met au monde, je vais dire, biologiquement, en donnant la vie, mais le père aussi met au monde dans le sens d'encourageant son fils, sa fille, à prendre ses engagements, à prendre ses responsabilités, à l'emmener plus loin. Hein, comme on dit souvent, ben, reste pas dans les jupes de ta mère, etc. Bon, comme pour dire, va, comme dit le nom du film, là, va, vie et deviens, un beau nom de film, c'est vas-y, ne te laisse pas, ne sois pas crampon. Quelqu'un qui est crampon justement à une sécurité maternelle ou un peu, qui a toujours besoin d'être sécurisé, c'est quelqu'un bien souvent qui a eu un manque au niveau de l'éducation dans le rôle que le père a pu avoir avec lui ou avec elle. Parce que le père a aussi un rôle d'éducation pour les filles, c'est évident. Et donc, du coup, je pense que c'est une des causes qui peut essayer de comprendre pourquoi on peut avoir un manque de confiance en soi. Autre point, le manque de formation de compétences. Le manque de formation de compétences. On va prendre le niveau professionnel. Plus vous êtes compétent, compétente, plus vous êtes formé, plus vous avez confiance dans le savoir que vous possédez. Et ça vient aussi avec l'expérience. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a peu de formation, peu préparé, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, parce qu'il ne possédera pas le métier qu'il doit. Il n'a pas de la possession. Il est toujours en recherche. C'est sûr que si vous allez chez le dentiste, déjà c'est pas très marrant, c'est comme la confession. Et donc que le dentiste se dit qu'est-ce que je dois faire là face à vous ? Je n'ai vraiment aucune idée de ce que je dois faire. Et vous le regardez, on est toujours très intelligent quand on va chez le dentiste. Et donc, du coup, vous dites, écoutez, je vais peut-être voir votre voisin, parce que là, ça ne m'appelle pas. Si, on a confiance, par exemple, dans un médecin, parce qu'on sent qu'il possède la science de la médecine. On sent que, quand il regarde, moi je me rappelle, je m'étais cassé la jambe pour une confidence personnelle. Bon. J'ai été voir des médecins qui m'ont mal soigné, mais j'en ai été voir un, etc. Il ne m'a même pas demandé, ni ausculté, ni quoi qu'est-ce. Il a regardé la radio, tac, tout de suite, paf. Le type, il est sûr de son art. Et de fait, il était sûr de ses doigts aussi. Il a opéré, il a fait clac, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Oui, parce qu'il possède la science de la chirurgie orthopédique là, en la matière. Il la possède. Donc, la formation, par exemple, la foi. Comment vous avez confiance dans votre foi ? Parce que vous êtes formé, vous connaissez le contenu de votre foi. Ce n'est pas juste parce que papa, maman m'a traîné à la messe jusque je ne sais pas quel âge. Parce que vous savez, et parce que vous savez, parce que vous avez étudié. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié la foi n'aura pas les mots pour dire sa foi. Et n'aura pas son... c'est vrai que si j'étais né en Inde, je serais peut-être hindou, si j'étais je ne sais pas quoi, c'est possible. Mais connaître sa foi, c'est autre chose. Du coup, on se met à douter, on n'a pas assez confiance, parce qu'on n'est pas assez formé, on n'est pas assez compétent en matière de sa foi, par exemple. Ça, c'est un autre exemple. Autre point, manque de vie spirituelle, sentiment de solitude. Manque de vie spirituelle, c'est-à-dire que la personne, c'est sûr que la personne qui n'a, j'allais dire, le fait de s'expérimenter seul, de se penser seul, vous voyez, le fait de se penser seul qui est, au fond, la caractéristique de la personne qui n'est pas croyante. Le croyant, lui, n'est jamais seul. Non pas que l'autre, l'un ou l'autre soit meilleur que voilà, c'est pas une question, un jugement moral. L'un est meilleur, l'autre pas bien, non. Mais c'est juste que, dans la manière de fonctionner, le croyant n'est jamais seul. Et donc, il y a cette confiance en Dieu, cette présence de Dieu dans sa vie qui va l'aider. Mais évidemment, quelqu'un qui a au niveau de sa vie spirituelle, n'a pas une vie spirituelle très développée, sa confiance en lui-même, elle sera assez aléatoire parce qu'il ne compte que sur ses forces. Et forcément, nos forces sont par définition limitées parce que nous sommes des êtres humains avec nos limites propres. Mais si je n'ai pas le sentiment que je m'appuie, au fond, sur le Seigneur, sur quelqu'un d'autre, la présence de Dieu dans ma vie, c'est ça aussi qui me permet de prendre des défis peut-être beaucoup plus grands que ce à quoi j'étais en droit d'espérer ou qui me permet d'aller de l'avant. Parce que j'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette manière de... Vraiment, la confiance et foi, c'est la même racine. C'est la même racine. Autre point, manque d'accompagnement, de relecture de l'expérience. C'est très important. Ça a à voir avec la solitude, mais sous un autre aspect. Le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui parler de ce que vous vivez, et donc c'est ce qu'on appelle l'accompagnement, l'accompagnement, singulièrement l'accompagnement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le coaching, qui est en fait la version laïque de l'accompagnement spirituel. Hein, donc ça c'est très à la mode, on paye du coaching de partout, etc. Ça fait, il y a certains qui se remplissent les poches comme ça, c'est très bien. Quand, l'accompagnement spirituel, vous n'êtes pas obligé de venir avec votre carte bleue, je vous détends tout de suite. Vous pouvez venir comme ça, les mains dans les poches. Hein, donc, mais le fait que ce soit coaching ou accompagnement spirituel, ce n'est pas les mêmes choses qui sont visées, mais l'idée c'est de ne pas être seul là aussi. D'avoir quelqu'un d'expérience avec qui relire votre vie. Et on a pas, je parle de relecture, et ceux qui sont peut-être plus familiers de la spiritualité ignatienne, hein, ça leur parlera, la relecture de vie, relire sous le regard du Seigneur ce qu'on a vécu et en tirer les conséquences. En revanche, bien souvent, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien souvent, c'est on enchaîne les choses les unes à la suite des autres. Et du coup, comme on enchaîne... Forcément, à un moment donné, il y a comme un flux, je vais dire, surtout comme célibataire parisien que vous êtes la plupart d'entre vous. On ne prend pas conscience de qu'est-ce que j'ai vécu. On n'arrive pas à des mots dans ce dîner, dans cette expérience, dans ce cinéma. Je ne prends pas conscience de ce que j'ai vécu. Et donc ça, forcément, ça m'insécurise. Ça ne me permet pas de me construire, en tout cas. Dernier point, la jeunesse. Et propre à la jeunesse, le manque de confiance en soi, de façon assez générale. Et j'allais dire, le remède, c'est juste les années qui passent, mais pas seulement, on le verra. La jeunesse, forcément, que quand on est plus jeune, quand on est un peu inexpérimenté, il y a une forme de trouver les personnes qui vont nous transmettre leur savoir et nous donner l'expérience qu'elles ont. Ça, c'est la fin de la première partie, les causes. On pourrait en avoir d'autres, des manques de confiance. Moi, juste ce que j'ai listé, mais vous pourriez en rajouter d'autres, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je compléterai mon topo. Deuxième partie, pourquoi la confiance en soi est importante. La confiance en soi est importante parce qu'elle nous permet de commettre moins d'erreurs. Et comme je l'ai dit, c'est pas la confiance en soi n'est pas l'orgueil, même si la limite est ténue. La vraie confiance en soi, c'est reconnaître aussi ses propres limites. Mais je pense que ça nous évite de commettre des erreurs et ça nous évite de commettre un certain nombre de péchés que l'on fait, de décisions que l'on prend, que l'on regrette. Ou d'actes que l'on pose parce qu'on n'a pas eu assez ce temps de réflexion, de délibération dont je vous ai parlé. Et donc, la confiance en soi aide, et la confiance en Dieu aussi, c'est aussi d'une certaine manière une seule et même confiance, comme la confiance en l'autre. On pourrait aussi décliner le thème de plusieurs manières, mais je trouve que ça aide quelque part à... de ne pas agir, de ne pas poser des actes que ensuite nous sommes amenés à regretter. Et donc, il faut le voir vraiment, si vous avez, peut-être vous avez été éduqué avec une certaine confiance en vous, vous avez quelque chose qui vous a, parce qu'on vous l'a transmise, on vous l'a enseigné, on vous a encouragé à aller dans ce sens-là, tant mieux, ça évite d'apprendre des chemins de traverse qu'ensuite vous regrettez. Et ça évite aussi, il y a un certain nombre de péchés que l'on commet uniquement, j'allais dire, parce que on n'habite pas assez en nous-mêmes, on n'a pas assez conscience de qui nous sommes. Et je pense que, commis sous le coup, encore une fois, de l'émotion, donc on se met à critiquer, on se met la colère, qui nous construit pas, quoi, qui ne nous aide pas. La confiance en soi était importante pour mieux se connaître soi-même. Je crois que c'est, et je vais dire, la meilleure, c'est une respiration à deux poumons. Et la meilleure connaissance de soi-même implique aussi une meilleure confiance en soi. Et ça, je pense que ça aide aussi de ce point de vue-là, parce que c'est comme ça que vous arriverez à découvrir aussi vos talents. Et c'est comme ça que vous arriverez à porter du fruit. Il y a une fécondité qui parfois n'est pas au rendez-vous, parce qu'on n'ose pas poser des actes. Je pense, par exemple, dans la question de la préparation au mariage. Il y a des actes courageux à poser. Que ce soit des ruptures à poser, que ce soit des déclarations d'amour à poser. Mais s'il y a un manque de confiance en soi, à un moment donné, vous voyez, on laisse aller, on dit, ben, on va voir, on reste entre deux eaux, on reste, c'est oui, c'est pas oui, c'est pas non, voilà, c'est quelque chose qui ne vous construit pas, en fond. Et bon, du coup, après, vous vous retrouvez dans des situations, surtout les questions affectives, c'est quand même tellement douloureux, parce que ça touche l'intime, ça touche le cœur, ça touche les sentiments, les émotions, etc. Du coup, on reste dans un entre-deux, peut-être dans lequel on est un peu commode, parce que voilà, on n'est pas seul, mais on n'est pas complètement engagé, bon, voilà. Mais et peut-être parce qu'on n'ose pas, tout simplement. Parce qu'on n'aime pas assez l'autre pour prendre la décision soit de rompre, soit d'aller ensemble vers un avenir commun, un destin commun. Et ça, je pense que c'est là où il faut demander au Seigneur une certaine... Ouais, je vais parler de la vertu de force tout à l'heure. Ça fait partie de la vertu de force. La confiance en soi alimente la vertu de force. Force, c'est le courage. Force, c'est dans ce sens-là. C'est pas fort à bras, etc. C'est une décision courageuse. C'est de savoir poser des décisions qui sont difficiles. Et pour ça, il faut aimer. Aimer l'autre personne. Aimer le bien de l'autre. Et pour ça, il faut savoir connaître le bien, son propre bien, et connaître le bien de l'autre. Laisser, par exemple, une relation amoureuse s'étioler, s'effilocher, etc., c'est pas aimer l'autre personne, c'est pas respecter. Par exemple. Ça, c'est... Alors, c'est vrai que c'est parfois douloureux de couper, Mais vous voyez, le manque de confiance en soi nous évite de poser des actes. Alors, je me souviens comme ça, ce jeune, etc., je crois que c'est la jeune fille qui me l'avait raconté, ils vont, comme fiancés, faire un voyage au Vietnam. Et elle dit, bon, c'est là qu'il va faire sa demande, etc., certainement, ils sont face à la baie d'Along, voilà, tous les deux, elle dit, c'est là que ça va venir, certainement, bon, rien qui venait, bon. Et l'autre, comme c'était un perfectionniste, il fallait que tout soit parfait, et comme il y avait quelques nuages qui étaient quand même dans le ciel, du coup, il a dit non, je vais voir un truc encore mieux qui va me permettre de faire ma... Et puis finalement, en arrivant à l'aéroport, et puis même à la gare, etc., à côté d'un SDF qui était en train de faire pipi à côté, il a fait sa déclaration. Donc, vous voyez, le fait de pas... je pense, le perfectionnisme, des gens, ils se mettent tellement haut qu'ils n'arrivent pas à poser les actes qu'au fond, ils sont invités à poser. Parce que toujours, c'est une manière aussi de justifier. C'est une manière de justifier sa propre lâcheté. Ça peut être ça, le perfectionnisme. Voilà. Donc, les remèdes. Troisième point, les remèdes. Alors, je vais un petit peu peut-être me répéter, mais... l'accompagnement, la relecture, c'est-à-dire la relecture l'accompagnement et la relecture qui font l'expérience. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas simplement le temps qui passe qui fait l'expérience. Parce que le temps qui passe avec l'enchaînement de choses que l'on peut vivre sans prendre conscience de ce que je vis ne contribue pas à l'expérience. C'est pas l'accumulation d'événements dans ma vie qui fait l'expérience. C'est la relecture que je peux avoir avec quelqu'un qui m'aide à me relire, par exemple, une relation amoureuse qui n'a pas abouti, par exemple. Voilà, c'est évident, un truc comme ça demande une relecture. Ça, c'est évident. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. On ne peut pas dire, on va attendre la prochaine, puis on verra, puis au bout de 10, voilà, je vais peut-être prendre, je tiendrai un peu les leçons d'expérience. Non, ce n'est pas seulement le temps qui passe qui fait l'expérience. C'est le fait de se remettre, d'être accompagné, de faire, et qui vous permet, et le fait d'avoir de l'expérience, évidemment, ça vous aide à avoir confiance. La connaissance de ses limites, limites corporelles, limites intellectuelles, limites relationnelles. La connaissance de ses limites, je crois que ça fait aussi fait que je peux savoir quelle est la, par exemple, pour une relation amoureuse, quelle est la personne avec laquelle je peux vivre le restant de ma vie dans un engagement. Parce que je sais aussi la personne avec laquelle je ne peux pas vivre. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, la connaissance de ses limites fait aussi que, et ça c'est aussi un acte d'humilité, alors que Socrate disait « connais-toi toi-même », les saints sont unanimes pour dire méfie-toi de toi-même. Bah, bah, méfie-toi de toi-même, mais du coup, vous nous avez dit l'inverse pour avoir confiance en soi. Mais ce n'est pas méfie-toi de toi-même dans le sens de dire je suis nul. Méfie-toi de toi-même, c'est la confiance en soi fait aussi que je repère les lieux où je ne peux pas aller. Parce que ça ne va pas être des lieux qui vont me construire. Parce que c'est peut-être des fragilités en moi. Et de repérer ça, de repérer mes limites, les limites corporelles, par exemple, les limites, fait que progressivement, je prends conscience de qui je suis, en prenant conscience de qui je suis, je gagne en confiance. Évidemment, la confiance en Dieu et sa miséricorde. Ça, j'en ai parlé. C'est le fait de dire que, ben voilà, nous avons, à nos actes manqués, hein, nous avons parfois des actes manqués dans nos vies, eh bien... ces actes manqués, on en a plus ou moins tous, commis soit sous le coup de l'impulsion, des sentiments, etc., qui nous ont envahis, fait faire des choses qu'on n'appréciait pas, ou alors volontairement, on a choisi d'aller dans des situations où on savait bien que, voilà, après tel pas, il y aurait tel autre pas qui suivrait. Je pense que, et de ça, on veut en demander pardon. Le fait d'accepter ces échecs, d'accepter ces erreurs, d'accepter, j'allais dire, ses propres péchés. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous construire. Le déni, et de ce point de vue-là, le manque d'examen de conscience, vous savez que quand vous vous confessez, hein, je vous invite tous à faire ce geste de solliciter le pardon du Seigneur à travers le ministre, hein, qui vous donne le pardon, l'absolution, d'abord il y a un examen de conscience, on examine sa conscience. Le fait d'examiner sa conscience et de voir, mais en même temps de remettre dans la miséricorde ce qui n'a pas été top dans mes manières d'agir, je trouve que ça vous aide à vous construire. C'est vraiment un lieu de construction, parce que déjà il y a le Seigneur qui vous pardonne, vous entendez « je te pardonne », ça vous l'entendez, on dit mais je ne peux pas me confesser avec Dieu, etc. Oui, mais Dieu, généralement, il ne dit pas « je te pardonne ». Voilà, mais le fait d'entendre et qu'il a choisi des ministres pour c'est rien que, au plan psychologique, c'est une vertu psychologique, sans compter l'aspect spirituel, évidemment, qui est très important. Et donc, du coup, je pense que la miséricorde de Dieu et cette confiance en Dieu qui fait que, voilà, s'il y a eu des actes manqués, mais je peux toujours rebondir. Je peux toujours rebondir. Je ne me laisse pas enfermer dans mes échecs, dans mes erreurs. Il y a toujours un autre avenir possible. Et je trouve ça très beau de voir que les plaies du Christ, le Christ ressuscite avec ses plaies. Et ces plaies qui sont signes de sa souffrance, c'est des plaies qui sont lumineuses. Et ça, le chrétien aussi, de ce point de vue-là, il a un autre regard par rapport à l'échec. Il n'a pas simplement un regard humain. Il sait que dans ces échecs, dans ces choses qui n'ont pas été top, dans ces des actes que j'ai posés, je sais qu'à partir de là, le Seigneur va pouvoir aussi répandre le baume de sa miséricorde et me redonner aussi peut-être l'estime de moi-même que j'ai perdue en posant tel ou tel acte où je me dis, voilà, c'était pas ça que je voulais, pourtant je l'ai fait. Autre point pour le remède, ne pas ressasser ses erreurs, ne pas vivre dans le passé. Ne pas vivre dans le passé, c'est vraiment ça, je crois que c'est vivre au fond dans le présent qui va vous aider de cette confiance. C'est ça aussi une vraie capacité de dépasser ce qui a pu. On a le droit. Avec le Seigneur, on a le droit à l'erreur. C'était Ford qui disait « Oui, on a le droit à l'erreur, mais jamais la même. » Un truc comme ça, je pense qu'il disait comme ça. Mais, c'est vrai que dans notre monde, on n'a pas beaucoup droit à l'erreur. Hein, parce que vous êtes dans des métiers qui sont très exigeants, hein, au niveau technique, au niveau voire rentabilité, etc., etc. Et du coup, vous sentez qu'il y a une pression sur vous. Mais ce qui est beau, je trouve, c'est qu'avec le Seigneur, on a le droit à l'erreur. Et de se construire en accueillant sa propre fragilité. Parce que parfois, vouloir faire des choses qui... Alors, se donner des défis, moi, je trouve que c'est bien. Mais vouloir faire des choses qui sont au-delà de nos capacités ne nous aide pas dans la confiance en nous-mêmes. Hein, c'est accueillir aussi. Ça, accueillir, on peut peut-être parfois tenter un peu plus, pousser le bouchon plus loin, ça, je suis d'accord. Mais accueillir ses propres fragilités, je crois que c'est important. Dans la confiance en soi. Une vie de prière et contemplative qui aide, on l'a vu, à la prise de décision. Ça, c'est capital. Une vie de prière, une vie... Où en êtes-vous quelle est la dimension contemplative de votre vie? Quelle est la dimension de silence dans votre vie? Hein, la dimension de prière, d'intériorité, où vous vous construisez dans cette intimité avec le Seigneur. Se remettre face à ses priorités. Se remettre face à ses priorités. C'est ce que je vous ai dit par rapport à la délibération. Le fait que vous sachiez où vous voulez aller et que vous vous disiez à vous-même quelles sont les priorités dans ma vie, surtout que vous qui vous êtes tellement sollicité, vous aviez certainement X choses pour cette soirée prévue, vous êtes invité par Facebook de façon admirable, avec plein d'autres possibilités, etc. Bien, du coup, le fait de mettre vraiment de mettre ses priorités dans l'ordre et de savoir au fond, vers où je veux aller, vers où je veux aller professionnellement, vers où je veux aller affectivement, vers où je veux aller au niveau de ma vie de foi, qu'est-ce que je veux envie de, les décisions à prendre, etc. Et ça, de le faire avec quelqu'un, c'est évident que ça aide énormément à la confiance en soi. Prendre des distances face à ses émotions, j'en ai parlé, et singulièrement le rôle de l'intelligence. L'intelligence a cette vocation de nous aider à prendre des distances par rapport à l'émotion. Hein, c'est pas en enfouissant les émotions qu'on va réussir à mieux les mettre à leur place. Non, c'est parce qu'enfouir, c'est un peu comme la cocotte minute dont on boucherait le petit bouchon et on tirerait le bouchon, on sait très bien ce qui se passe. Ça nous explose au nez et il y a des tas de choses qui nous reviennent parce qu'on n'a pas accepté de dire, voilà, j'ai une émotion de colère, j'ai une émotion de... Mais l'intelligence m'aide à prendre juste une distance hein, par rapport à ça, que ce ne soit pas cette émotion. Je vois l'émotion en moi-même, de colère. Je vois l'émotion en moi, mais en même temps, je veux dire, je ne veux pas que ce soit cette colère qui est le dernier mot, ni même le premier dans ma manière de réagir dans telle ou telle circonstance. Et en dernier lieu, je vais dire, comment est-ce qu'on voit qu'on est arrivé hein, à une certaine confiance en soi? C'est le fait de dire « je ». Le fait de parler à la première personne. Et dire « je », c'est savoir dire « non ». C'est pareil. Dire « je », c'est dire « non ». Et je pense que de ce point de vue-là, c'est là où vous voyez, parce que vous dites « je » et vous dites « non » parce que vous dites « cet aspect-là, cette proposition-là ne me convient pas, parce que je sais qui je suis ». Mais ça, c'est aussi l'expérience, en partie l'âge, qui vous permet de le dire, et puis le travail sur vous-même. Mais au fond, c'est, je trouve, l'aboutissement de ce travail-là doit vous amener à faire des choix, et à ne plus être dépendant du regard de l'un ou de l'autre dans une certaine forme de... Mais le fait de... Et puis de dire, voilà, j'ai des actes parfois de courage. Il y a des personnes, par exemple, qui sont timides. Bon, la timidité, elle n'est ni bonne ni mauvaise. On ne la choisit pas, ça vient souvent de l'enfance, etc. Il y a des personnes qui sont... Bon, ben, cette timidité-là, ben, je la vois, elle est en moi, mais je ne veux pas que ce soit elle qui ait le dernier mot dans ma vie, dans mes actes, dans les actes que je vais poser. Il y a parfois des actes de courage à vaincre sa timidité. Je vois par exemple des frères dans la communauté qui sont timides, mais bon, ils sont prêtres et ils sont invités aussi à parler en public, ne serait-ce que lors des homélies, etc., lorsqu'ils président la messe. On voit bien que ça leur coûte, mais je trouve que c'est beau, ça fait mon admiration, de voir des frères qui n'ont peut-être pas spontanément, naturellement, de facilité d'éloquence et de prendre la parole en public, et qui là, tout d'un coup, sont face à une assemblée. Et parce qu'ils ont quelque part pris confiance aussi de ce qu'ils pouvaient donner et de ce qu'ils pouvaient donner, le retour qu'ils ont eu les précédentes homélies, l'expérience, on leur a fait prendre conscience que ben voilà, ils avaient quelque chose à dire aussi à d'autres. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Non, confiance en soi et estime de soi, est-ce qu'il y a une distinction? C'est assez semblable. Moi, je ne verrais pas de distinction. C'est un des fruits de l'estime de soi qui est une certaine confiance en ce que je... Parce que je me connais, au fond. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pas tous en même temps. On va plus s'entendre. Bien, que faire face à nos émotions? Alors, ça reprend un peu le topo du mois de juin, mais face à nos émotions, c'est repérer les points. On va prendre la colère. La colère en voiture. On va prendre un cas. La colère en voiture. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour ça, donc, c'est de l'ordre du témoignage. Voilà, et je pense que je ne suis pas seul dans l'Assemblée. Justement, la colère peut engendrer des actes d'imprudence. Parce qu'on est en colère contre celui qui vend, qui n'avance pas, du coup, clac, je double par la droite, etc. Si je suis sur l'autoroute, etc., je klaxonne, voilà. Bon, ben, déjà, quand je m'assois dans la voiture, je sens que je suis fragile par rapport à ça. Et que cette colère que je peux avoir quand je suis en voiture, par rapport, évidemment, moi je sais conduire, mais les autres, c'est tous des nuls. Donc forcément, et surtout, pardon mesdemoiselles, mais si c'est une femme au volant, ah ben voilà, voilà, encore une femme au volant, etc. Il y a certains qui réagissent comme ça, alors que les femmes ont beaucoup moins d'accidents que les hommes. Mais du coup, je trouve que le fait de déjà prendre la voiture et de se dire... est-ce que je peux avoir d'être attentif déjà à ses propres émotions? Pourquoi je me suis mis en colère? Je me suis mis en colère. Ça veut dire quoi la colère? Parce que cette colère-là, elle vous fait poser des actes que vous ne voulez pas. Parce que vous dites, ben, j'étais idiot. Parce que je me souviens, là, c'était sur les quais à Paris, il y en avait un qui tournait. Mais en fait, moi, je pensais qu'il y avait double ligne. Et donc c'est sur les quais, double ligne, mais en fait non, il y avait une ligne en pointillé, et du coup je l'ai klaxonné, je dis ça manque de respect, c'est quoi ce truc là, je me suis énervé comme ça, bon. Et en fait il dit non, il y a une ligne pointillée. Ah bon, je regarde dans le réto, ah oui, il y a une ligne pointillée. Donc je me suis dit, c'est pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi est-ce que c'est la voiture, mais c'est peut-être là où je ne me sens pas respecté, je sens que c'est sorti comme ça, c'est sorti d'un coup. Il faut demander aussi pardon au Seigneur, parce que ça manque. Parce que déjà, c'était faux, c'était injuste ce que je faisais. Par rapport à ce monsieur, c'était une réaction injuste. Mais je veux dire, est-ce que quelque part, je suis prêt à accueillir les fois où je ne suis pas assez tenu en compte? Est-ce que je suis prêt à accueillir ça? Est-ce que je suis prêt à accueillir, par exemple, au petit déjeuner à l'abbaye? Bon, on prend le petit déjeuner en silence, mais c'est sûr que je vivrais mal, par exemple, d'arriver. Moi, je prends du thé. Donc, je vivrais mal d'arriver au petit déjeuner après les laudes et l'oraison, donc après une heure de prière, quand même. On arrive et qu'il n'y ait plus d'eau pour le thé, d'eau chaude. Ah, du coup, c'est quoi, moi, intérieurement, est-ce que je suis assez maître de moi-même pour... ça veut dire quoi, cette colère? Tu vois, je pense que la gestion de ces émotions, c'est pas pour rien qu'il y a des émotions qui ressortent, mais c'est pas pour rien qu'elles ressortent. Elles disent quelque chose de vous. Mais c'est juste, on veut pas que ce soit ça. Ce qu'on appelle la maîtrise de soi. On veut pas que ce soit ça qui est le dernier mot. D'autres questions? Oui. Oui. Alors, l'excès de confiance, c'est-à-dire la présomption, ce qu'on appelle la présomption, évidemment, entraîne des actes qu'on ne veut pas, qu'on regrette de poser. Le présomptueux, c'est celui qui pense qu'il est capable de faire quelque chose alors qu'il n'en est pas capable. Et donc, évidemment, c'est... Mais vous voyez, c'est... La vertu, c'est-à-dire la vertu, c'est la force intérieure, c'est ça la vertu. La vertu est dans le juste milieu. Hein? Donc c'est entre le trop et le pas assez, entre la dépréciation de soi-même et puis l'excès de confiance en soi qui ensuite... mais alors que c'est un manque, il n'y a pas eu ce travail de délibération. Bien, bien souvent, vous voyez, surtout quand on est jeune, moi je vois des gens, ils voient quelque chose à faire... Il m'en conseille une personne, bien souvent, il y a des personnes comme ça qui prennent des décisions, mais à l'emporte-pièce. sans prendre des conseils, des décisions importantes, j'entends, hein, sans demander conseil et sans délibération. Et ça, c'est typique, je vais dire, ah ben ça, je vais y arriver. Sans prendre le temps de s'asseoir, comme dit Jésus, ben, si tu veux construire une tour, ben, prends d'abord le temps de t'asseoir, parce que si tu n'arrives pas à la construire, ben, tous autour de toi se moqueront de toi, parce que tu auras entamé, tu n'auras pas achevé. Et dans la présomption, c'est souvent le cas, c'est qu'on commence quelque chose, mais en fait, pour tenir la distance, on voit qu'on n'a plus assez les ressources intérieures. Mais c'est là qu'on apprend, c'est-à-dire, quelle est ma vraie mesure, quelle est ma manière de... Où est-ce que je peux mettre le curseur dans, justement, c'est le juste milieu. Oui ? Bon, ben... aide. Oui, merci pour ta question, merci. Mais parce que oui, je pense que ça aide. Maintenant, il faut à un moment donné, on n'aura pas toujours les autres en face. Le bon Dieu, on l'aura toujours. Mais bon, c'est rare qu'il vous appelle sur votre portable. Mais les autres seront... Ne demandent... Oui, je pense que oui, singulièrement pour l'enfant. L'enfant... C'est évident que dans la relation avec ses parents, sa confiance en lui, son auto-estime se construit. Ça, c'est juste évident. Maintenant, je pense que le fait que l'on on prenne progressivement conscience de qui l'on est, une connaissance de soi-même, tant dans l'excès où on ne veut pas aller que dans l'excès par négatif, mais sans forcément... alors on l'apprend dans le compte. Mais d'être trop en relation avec l'autre... Trop sous le regard de l'autre, je trouve que c'est quelque chose qui ne... Vous voyez, des personnes qui cherchent à plaire. Le fait de chercher à plaire, moi je trouve que c'est une vraie plaie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est chercher à plaire, qui sont toujours dans le désir de plaire. Vous voyez, c'est toujours comme une force, d'une certaine manière, de vouloir acquérir la bienveillance de celui qui est en face, etc. Je pense à ça, il faut renoncer. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus être complètement désagréable, je suis d'accord avec vous, parce que c'est vrai que ça peut se sentir très seul, mais être dans un excès de désir, de vouloir plaire, de vouloir... et la société est très comme ça. Et je veux dire, même physiquement, alors même, c'est vrai que sur les femmes, il y a beaucoup de pression en termes physiques, etc. Voilà, de montrer, ouais, il faut que je maquille, il faut machin, etc. Bon, j'ai fait une préparation au mariage il n'y a pas très longtemps, et la fille est arrivée, c'était vraiment une petite poupée hyper minime. Mais je lui ai dit, écoute, tu viens d'une abbaye, tu peux te détendre. Hein, t'es pas. C'est pas. T'es pas obligé de te faire les ongles, de machin, les ongles des doigts de pied, les machins, tout était une petite Barbie impeccable. Bon, non, tu vois, là, c'est un truc comme ça, je me suis dit, tiens, il va falloir que je lui en reparle. Parce qu'elle est trop dans le désir d'être approuvée par l'autre. Et peut-être son fiancé lui demande trop ça. Tu vois, lui demande trop d'être la petite mignonne parfaite. Ah, ça, après, au début ça va, après t'en auras le bol. Ah, parce qu'on n'a pas, justement, est-ce que je peux aussi être, bon, je ne dis pas, prenez votre douche tous les jours quand même, un minimum, mais sinon, est-ce que j'ai le droit aussi d'être juste simple? Oui, la simplicité. Donc, dans les relations, je préférerais simplicité plutôt que vouloir plaire, plutôt que de se penser par rapport à l'autre. Il y a des personnes à qui on ne va pas plaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Peut-être que je ne vous plais pas. Tant mieux, mais tant pis, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais moi, ça m'est, quelque part, ça m'est complètement égal. Je ne suis pas là pour vous plaire, par exemple. Enfin, je suis là pour vous enseigner. Il y a un bien qui est votre intelligence, vous enseigner, vous éclairer votre conscience pour que vous... C'est ça qui m'intéresse. pas dans un retour. Ah ben là, vous avez toujours, vous cherchez le retour, cherchez là. Non. Je pense qu'il faut vraiment se défaire. Mais c'est peut-être avec l'âge, je pense que ça arrive plus. Mais il faut vraiment se défaire de ça. C'est un dépouillement intérieur de pas être dans l'approbation de l'autre. D'autres questions? Oui. Non, mais tu peux en poser. On va arrêter à 9h15. Merci. Oui, donc, tout le monde a compris la question. Comment, il y a pas mal de jeunes professionnels célibataires qui sont professionnellement hyper compétents, qui ont une très grande confiance en eux, mais affectivement, qui sont un peu des bébés, quoi, je veux dire, qui n'ont pas de consistance. Je ne sais pas si c'est un peu cash. Non. Mais au niveau affectif, ça ne suit pas. Professionnel, artistique, intellectuel, etc. Ah, parce que, mais pas amoureux. Bon. Hartung. Bon, la question que tu poses, à mon avis, il y a plusieurs qui se la posent. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont une grande confiance professionnelle, artistique, intellectuelle, etc. Mais dès qu'il faut rentrer dans une logique de don, parce que l'amour c'est bien ça, c'est rentrer dans une logique de don de soi, on sent que, un peu comme le cheval face à l'obstacle, ils renaclent, ils font comme ça, et puis ils n'arrivent pas à franchir l'obstacle. Quelque part, ils n'arrivent pas à. Oh là là. Voilà, pourquoi tu m'as posé la question? Là, je perds confiance en moi, non pas du tout. Non, mais je ne sais pas trop quoi dire. C'est-à-dire que il peut y avoir un manque de courage. Choisir, c'est renoncer. Et du coup, je préfère avoir l'infini, je veux dire, l'infini des possibles de moi comme jeune garçon célibataire parisien, l'infini des jeunes et belles jeunes filles qui sont ici présentes dans la salle, je préfère avoir la panoplie. Voilà, je me contente de ça, je me repais en ça. Voilà. Et du coup, maintenant, on choisit une, mais c'est renoncer forcément, en tout cas, en général, dans une dimension chrétienne à toutes les autres. Donc un manque de courage, au fond, derrière ça, peut-être un vrai manque d'amour. Et trop, justement, trop centré sur eux-mêmes, n'arrive pas à rentrer dans la logique de don. Et d'une vraie confiance. Alors, est-ce que c'est aussi le fait de se protéger, de se blinder, de tout vouloir maîtriser? À un moment donné, quand tu rentres dans une relation amoureuse, tu sais très bien que tu ne maîtrises pas tout, par définition. Déjà, nous-mêmes, on a pas mal de mal à nous maîtriser, mais déjà, et a fortiori dans une relation à deux. Et du coup, des personnes, ça les angoisse trop, c'est peut-être l'angoisse, vous voyez, ça les angoisse trop, mais je vais me lancer dans une relation avec quelqu'un qui va faire que préfère rester sur le bord du chemin. Et puis souvent les garçons, en plus c'est plutôt les garçons comme ça. Et puis aussi les mauvaises expériences. Les mauvaises expériences qui se disent, mais est-ce que c'est pas moi qui ne suis pas plus capable pour aimer? Oui, ça peut aussi être une source, mais l'égoïsme, hein, ça va être l'égoïsme, les manques d'amour, tout simplement. Je pense qu'il faut pas sous-estimer le fait de ces manques d'amour, ces manques de courage, ces manques de générosité dans le don de soi-même, parce que forcément, s'engager, c'est se montrer, c'est se révéler. Et les peurs dans l'engagement, c'est la peur de se révéler, de dire qui l'on est. Et puis, dans une relation déjà amicale, déjà, je vais dire professionnelle, amicale, mais a fortiori amoureuse, ça touche l'intime, ça touche votre projet de vie, ça touche beaucoup de choses. Bah, parfois, je suis vraiment trop dans ce repli sur moi, cette peur qui... voilà. Je pense que c'est ensuite, il faut voir plus le cas concret, mais... Dernière question, s'il y en a. La vertu de force. Si je voulais parler de la vertu de force, oui. Vertu de force, la vertu, c'est quoi la définition de la vertu? C'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. Comment est-ce que vous devenez cette disposition permanente acquise par la répétition des actes? Vous devenez pianiste en faisant du piano et virtuose en faisant des 8 heures de piano par jour. Voilà, c'est la répétition des actes, de même le vice. Hein, c'est la répétition des actes qui fait le vice. Hein. Et donc l'acte bon fait la vertu, la répétition de l'acte bon. Et donc la force, les manques de force, les manques de courage, cette vertu de force, elle consiste en deux choses. Premièrement, aller à la rencontre de choses difficiles, comme par exemple construire un couple. C'est quelque chose qui, évidemment, avec le nombre d'échecs que nous connaissons, n'est pas une chose facile. Ça demande du courage. Et le courage, c'est s'opposer à quelque chose, à quelque chose qui est mauvais. C'est-à-dire, c'est faire front à quelque chose qui est nuisible. Donc, c'est aller au devant d'eux, mais aussi c'est rester dans une situation difficile et ne pas quitter le navire alors que c'est un moment une tempête. C'est ça, les deux actes de la vertu de force, du courage. Et donc c'est vrai que des manques de courage, par exemple, pourront entraîner des manques de prudence. C'est-à-dire dans la prise de décision, ça entraînera parfois des manques. Parce que j'ai un acte de courage à faire, j'ai des trucs difficiles, mais je n'ai pas assez de... Dans ma sensibilité, affectivement, intérieurement, je ne suis pas assez disposé à dire les choses. Peut-être parce que je suis trop dans le désir de plaire. Peut-être, je ne sais rien. Ensuite, il faut voir le cas particulier. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire. Qu'est-ce que je vous dis, hein, quand il m'arrive d'accompagner des couples et qu'à un moment donné, je leur dis, bah, écoutez, là, arrêtez tout parce que je sens que ça ne va pas le faire. Alors, j'essaye de le faire avant l'envoi des faire-part. Pour que ce soit... c'est pas facile à dire. Bon, ça m'est arrivé que très rarement, mais ça m'est arrivé. J'essaie de dire de plus doucement, avec plus de douceur possible. Mais je sens que je ne serai pas à ma place de prêtre et ce serait un manque de courage dont j'aurai à répondre devant le Seigneur, surtout quand on voit l'engagement que ça peut être, que de ne pas franchir ce pas et de dire, écoutez, là, il me semble que là, vous allez dans le mur à deux. Mes amis.